Lorsqu'une foule se rassemble pour protester, elle est souvent désorganisée. Ce manque de structure peut amener à une escalade de la violence vers la violence de masse. Comment chaque individu de la foule peut-il critiquer les mouvements et décisions de la foule avant d'agir? Pour mieux comprendre ce sujet, rendons-nous à Calémy à travers le reportage que nous propose François-Xavier Mivet.
Selon de nombreux témoignages recueillis à Moba, tout est parti à l'aube d'un certain mercredi 1er août 2007 avec des battements de tam-tam, des chants hostiles, précédés quelques jours auparavant par des tracts et au fur et à mesure que l'heure avançait, la tension montait également d'un cran parmi les populations. À l'origine, expliquent d'autres témoins de l'événement, les refus de populations locales du retour des communautés Banyamulenge Tutsi congolais dans les territoires de Moba. Mais comment comprendre un tel comportement des populations exploitant la haine contre d'autres populations? Mouila Mbwenkulu, rencontré à Mobaport, explique.
Il y a certaines gens mal intentionnés qui peuvent jeter l'huile sur le feu et insinuer le poison dans les esprits jusqu'à ce que la population en a marre et se décide d'agir de la sorte.
Le mouvement des masses a conduit ces jours-là à Moba au dérapage, constate des témoins. Non seulement cette communauté Banyamulenge s'est vue spécifiquement ciblée, mais des appels à la haine diffusés par tracts dans des émissions de la radio communautaire des Moba ont été amplifiés pour viser tous ceux qualifiés des non-originaires pour aboutir à une véritable campagne de désinformation contre la MONUC et les hauts commissariats aux réfugiés HCR, les accusant à tort de vouloir faciliter les retours des réfugiés jugés indésirables. Les actes de violence et de pillage qui se sont produits dans cette localité sont les résultats directs d'un comportement répréhensible et contraire aux lois du pays. L'honorable Ildefonso Kibawa Motoliemo, président de la mutualité Bonvoano qui regroupe les habitants originaires des Moba, parle d'une population qui vit presque ignorante et sans information exacte.
Il faudrait chercher les médicaments pour qu'il n'y ait plus de rimeurs. Et les médicaments, c'est de nous donner l'information fiable. Et que cette information ne puisse pas rester au niveau des autorités locales. Qu'elle puisse atteindre le fin fond de Moba. Et seule façon de donner cette information, il faut donner aux responsables, aux gens bien identifiés, bien connus, qui peuvent s'exprimer dans la langue que la population comprend le mieux. Et je crois que ça... C'est une façon d'impliquer, d'une manière générale, les notables que nous sommes.
Qu'ils soient le fruit de l'expression d'une frustration spontanée ou de campagnes délibérées, les propos qui incitent à la haine ou à la xénophobie sont inadmissibles et inacceptables. Ceux qui tentent de manipuler la population pour servir leur propre dessein, quel qu'il soit, ne devrait pas oublier les conséquences tragiques de tels agissements dans l'histoire de la RDC et de bien d'autres pays, a fait observer un enseignant de Moba qui a requis l'anonymat. Les retours à la stabilité, la sécurité et la paix en RDC ne pourra se faire que dans le biais d'une véritable réconciliation nationale à laquelle tous doivent participer sans réserve, sans exclusive, ajoute la même source. À cet effet, l'administrateur de territoire, Serval Moulobé Kalala, travaille sur une nouvelle dynamique avec la société civile locale pour créer un nouvel environnement qui appréhende les problèmes locaux avec sérénité pour trouver des solutions par la voie pacifique.
L'information va maintenant suffisamment circuler parce que nous sommes dans un milieu, comme dans tous les autres milieux d'ailleurs. Lorsqu'on n'a pas d'information, c'est la spéculation. Et lorsqu'on a la bonne information, on peut aussi la transmettre et tranquilliser les gens. Sur le plan sécuritaire, c'est vraiment très important ça. Jusqu'ici, avec la société civile, nous travaillons main dans la main et les gens semblent m'écouter. Juste après cette réunion de lancement de la sensibilisation, nous allons entrer dans une autre pour déterminer les couches qui seront concernées par cette sensibilisation-là.
Par ailleurs, notre Milan Brinkoulou est l'habitant de Moba, les populations ainsi que leurs leaders communautaires. Politiques, religieux, coutumiers, ont la responsabilité de créer les conditions qui permettront aux citoyens de ces pays de coexister en paix et d'envisager l'avenir avec sérénité.
C'est dans le dialogue que vous pouvez bien exprimer votre idée et vos revendications peuvent être données dans les dialogues. Et cela, c'est toute la masse, toute la population et même la hiérarchie qui sera tenue informée de vos revendications et la réponse ne sera que normale.
La MONUC condamne avec la plus grande fermeté tout appel à la haine et demande instamment aux autorités congolaises de faire en sorte que ceux qui en sont responsables répondent de leurs actes. Décalémie, François Djabemibé, Radio Kapi.
Au cœur de votre journée,
Maman Nicole Wana Kotuna a appuyé Yombala Moko.
Je savais, nous avons une grande communauté congolaise en Belgique.
Na Bombelvino, c'est Louvou, Abengimingi, Fondou et Fondou.
Offrez-vous une pause au Kapi Mama sur Radio Okapi. Découvrir les femmes congolaises, mieux connaître ses droits, partager le rire des enfants, s'éduquer avec Prof Okapi. Conseillez-nous vos après-midi de 12h à 15h lors de Kinshasa avec Françoise Moukoukou sur Radio Okapi. Okapi Mama, pour vous faire plaisir.
Vous l'avez si bien entendu, de 12h à 15h, vous allez retrouver Françoise Moukoukou pour la tranche Okapi Mama. Okapi, on se poursuit avec notre chronique bénévolence et le comportement désorganisé de la foule engendre des violences. C'est le thème retenu pour ce jeudi. Objectif que nous allons poursuivre, c'est expliquer aux auditeurs comment les individus d'une foule peuvent réagir lors des manifestations contre les conditions de vie difficiles. Nous avons dans ce studio Espérance Baïzila, professeur Ali Fassi, qui est docteur en communication. Bonjour Madame Baïzila.
Bonjour.
Vous venez de suivre le reportage que nous a proposé Françoise Abémilé de Kalimi. Pour commencer, qu'est-ce qu'on attend par une foule?
En fait, une foule, merci d'abord pour cette invitation encore une fois à Radio Okapi. Et là, je m'en vais répondre à cette question en suivant exactement le reportage qui vient de se passer. Je dirais qu'une foule, c'est d'abord, il faut penser à une concentration de personnes, un grand nombre de personnes réunies à un endroit pour un but précis. Et la foule, en fait, la masse, comme on peut dire, le groupe de personnes, partage le même sentiment. Et la caractéristique première d'une foule, c'est la conscience collective. Celle d'appartenir à un même groupe, à poursuivre un même objectif, dans un groupe de personnes unies pour un même objectif et ayant en son sein ce qu'on appelle également la cohésion sociale, la cohésion du groupe, qui pousse d'ailleurs le groupe ou la foule à agir comme un seul homme. Voilà en quelques mots ce que je peux dire concernant en fait, la foule.
Mais quels sont les phénomènes qui poussent les individus, vous voulez dire, à se rassembler en masse?
Généralement, les phénomènes qui poussent les individus à se réunir, à se rassembler en masse, sont des phénomènes qui sont liés à des situations difficiles telles que la guerre, l'insécurité, l'instabilité économico-sociale ou des bouleversements politiques, en fait des conditions de vie difficiles. Et des individus sont affectés par ces problèmes et ont tendance à se mettre ensemble pour soit se reconforter moralement, soit pour chercher des solutions rapides et simple ou simpliste aux conditions de vie difficiles auxquelles ils font face et ils ont le sentiment d'être plus forts, donc plus aptes à affronter les problèmes quand ils se mettent ensemble.
Mais souvent on remarque de plus en plus un individu s'adonne plus facilement à la violence quand ils sont en masse. Pourquoi ce phénomène, Madame Baïdil?
Mais, je pense qu'à partir du moment où un individu appartient à une foule, il aura tendance à adopter certains comportements qui le poussent à la violence. Par exemple, il y a le courage, parce que de par son intégration à une masse, une personne ou les personnes ayant les mêmes buts que lui, peut entreprendre des actions ou des actes dont il n'aura pas le courage de le faire s'il était seul, isolé. Mais il y a également en fait l'aspect de l'irresponsabilité parce que dans la foule il y a une autre caractéristique que je n'avais peut-être pas citée, c'est l'anonymat. Et l'irresponsabilité c'est que l'appartenance à la foule provoque une dissolution du sentiment de responsabilité de l'individu. Qui fait? C'est la foule, en fait, c'est non identifié. Alors cela provient de deux facteurs, comme je viens de le dire, l'anonymat et le sentiment d'impunité du grand nombre. Alors les gens adhèrent facilement dans ce genre de situation de massification.
Oui, puisque nous parlons du comportement désorganisé de la foule qui engendre des violences, mais est-ce que le mouvement de masse peut-il affecter le comportement des individus?
Bien sûr que oui, cela se passe souvent lorsqu'il se produit, je crois, des situations, comme je viens de le dire, qui affectent des communautés, des villages, des pays. Les populations traversent des périodes critiques, instables. Ils revendiquent parfois, mais ils ont comme l'impression que leurs revendications ne sont pas prises en compte. Et cela provoque dans les individus des situations d'insécurité. Il y a quand même le moi profond qui est mis en difficulté et des groupes concernés, sont frustrés, rencontrent des frustrations et qui peuvent même déboucher sur le fait que le sentiment d'identité positive n'est plus même assuré. Et les gens, en fait, répondent à un ras-le-bol.
Oui, Madame Baïdila, on sait qu'il y a un adage qui dit « la masse n'a pas d'âme ». Ce qui revient à dire qu'il est difficile à la foule, d'ailleurs, qui construit cette masse, de critiquer les mouvements et les décisions de la foule.
Absolument, absolument, parce qu'en fait, quand les gens se retrouvent ensemble, ils n'ont pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence, les gens ne réfléchissent pas. Ils vont justement réagir plus par des sentiments, d'émotions. Or, quand on parle d'émotions, il n'y a pas la raison, c'est juste le contraire de la raison. Il n'y a pas de raison. Et les gens réagissent justement sans réfléchir à des actions qui, si ils sont pris individuellement, ils n'auraient peut-être pas pu le faire.
Donc on peut conclure que dans tous les cas, l'esprit des masses est irresponsable.
Il y a quand même, là je voudrais quand même apporter un élément rectificatif pour dire qu'il y a des groupes qui sont organisés, même quand ils sont constitués en foule, il y a quelque part une organisation, je prends l'exemple des partis politiques, qui sont en fait des mouvements organisés et qui peuvent, lors d'un meeting par exemple, les gens se retrouvent, j'avais dit que la foule c'était d'abord une concentration de personnes, les gens se retrouvent ensemble, mais il y a quand même, je crois, ils savent pourquoi ils sont là, mais... Quand on doit, par exemple, donner un ordre pour que les gens agissent, ils avaient déjà reçu cet ordre-là parce que le groupe est organisé. J'ai pris l'exemple des partis politiques. On en connaît peut-être même pas dans nos pays, dans le monde entier. Mais il y a des foules, par exemple, quand les gens sortent d'un match de football, c'est la foule également. Et là, ce n'est pas organisé. Mais même si les gens s'étaient retrouvés ensemble parce qu'un camp avait perdu, mais ils peuvent, par exemple, dans le groupe, mener des actions de violence. Mais c'est quand même différent, par exemple, d'une foule qui s'est constituée à partir d'un mot d'ordre donné par un leader d'un parti politique où ils savent qu'est-ce qu'ils poursuivent exactement comme but. Donc voilà, il y a quand même cette nuance.
Par exemple, il y a des cas également, on remarque que quand il y a la foule qui revendique quelque chose, et il y a une autre partie, un autre groupe qui fait répression, et là, ça tourne toujours au vinaigre, ça tourne toujours très mal.
Ça ne peut que tourner très mal, et nous avions connu ce cas chez nous à Kinshasa, où par exemple, lors des élections MLC et le PPRD, quand il y a un groupe qui est par exemple dans la rue pour revendiquer parce qu'il connaît des frustrations, et quand il y a un autre groupe opposé au premier qui vient par exemple pour essayer de faire le contre-pouvoir, pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon, en fait, moi je pense que c'est un peu mettre de l'huile dans le feu.
Quelle attitude prendre dans ce genre d'événements, par exemple, un groupe qui revendique quelque chose, quelle attitude adopter pour un autre groupe?
En fait, l'attitude adoptée, c'est la négociation, mais en fait, la foule ne négocie pas. Donc, il faut que si la foule est organisée, en fait, si ça sort, ça ressort d'un mouvement qui est organisé, il faut que de prime abord, les responsables, parce que dans les groupes, il y a également des responsables. Là, nous faisons allusion à des foules qui sont organisées, et je reviens encore ici une fois de plus au cas des partis politiques, dont les leaders peuvent bien donner des mots d'ordre pour que la violence, qu'il n'y ait pas violence.
Ah, mais il faut aussi que ces leaders soient non-violents.
Absolument, parce qu'il y a des leaders qui sont constructifs et d'autres non. Il y a des leaders qui travaillent pour leurs propres intérêts et qui prennent en fait la masse, la population, les groupes, les villages, les communautés comme des marchepieds. Ils s'en servent en fait pour des intérêts égoïstes. Mais il y a la manipulation, comme on l'a suivi à Calémie, qui fait que ces gens-là qui manipulent les populations, ces leaders qui sont souvent des beaux parleurs, qui utilisent leurs paroles pour emmener en fait les foules à soutenir leurs causes qui ne sont pas des causes souvent justes et qui fait qu'il y ait débordement. En fait, ce sont des situations pour des intérêts égoïstes.
Qu'est-ce qui explique cette façon de voir les choses? On a vu dans certaines situations la foule s'attaquer à leur propre leader.
Oui, ça, ce sont des cas rares. Mais alors là, il faut qu'il y ait, je crois qu'il y a infiltration, c'est comme ça qu'on dit, il y a peut-être infiltration dans le groupe d'autres personnes, parce que là, ce sont des facteurs de manipulation qui sont parfois très, très, très subtils. C'est difficile à la foule de comprendre que dans le groupe, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés qui viennent pour, en fait, s'opposer à l'intérieur du groupe. Et là, la foule ne peut pas comprendre et ça crée vraiment du désordre, parce que le groupe était autrement organisé, avait un autre objectif, et là, à l'intérieur du groupe, il y a des infiltrés qui apportent un autre objectif pour détourner le premier.
Là, à l'opposé, maintenant, si le leader n'est pas constructif et qu'il y a des infiltrés pour changer quand même cette idéologie destructive, est-ce que c'est une mauvaise façon de faire?
Mais comme c'est encore toujours la foule, comme on a dit, la psychologie de la foule est tout autre. Là, on va créer du désordre. L'action, comme prévu en premier lieu, ne sera peut-être pas menée de cette manière-là, mais je pense que ça sera toujours le désordre, ça sera toujours la violence, parce que les actions ne sont pas contrôlées, que ça soit dans le premier ou dans le deuxième groupe, parce que là, il y a également une autre confrontation, en fait, des gens qui se rencontrent et qu'il y a des divergences de points de vue. Donc, on va aller... Normalement, on ne peut qu'aller dans les actions de violence.
Est-ce qu'il est vraiment difficile d'échanger l'attitude d'une foule qui vit au quotidien avec des stéréotypes, avec déjà des clichés? Est-ce qu'on peut arriver quand même à changer une telle foule?
Si nous sommes dans le cas des groupes organisés, il faut absolument...
Les cas des tribus, les cas des ethnies, les cas...
C'est possible, avec des actions de non-violence. Vous savez, dans le monde, on a ce cas, l'histoire du monde nous parle de ces cas des leaders qui ont pu changer en fait le comportement de leurs membres. J'aime bien parler du Mahatma Gandhi en Inde, qui a pu, avec les actions non-violentes, changer en fait la mentalité de son peuple et de renverser la situation
dans le pays.
Bien sûr que ça doit prendre du temps, parce qu'il s'agit des mentalités. Ça ne peut que prendre du temps, et on fait avec la vie, parce qu'il s'agit d'une seule personne peut-être qui est leader, mais dans le groupe, il faut former d'autres personnes qui pourront changer le comportement. Vous savez, avec l'idée du Mahatma Gandhi, il y a dans les années 60, les États-Unis ont récupéré le mouvement avec Martin Luther King, et ça marchait avec la situation d'un noir qui revendiquait l'égalité avec les blancs. En Europe de l'Est, ça a également marché vers les années 80, avec la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, avec la non-violence, on a pu mettre, en fait, éradiquer la dictature communiste. Donc, c'est possible de changer les mentalités des peuples. L'histoire nous donne ces exemples-là. Donc, il faut que dans les groupes qu'il y ait des leaders constructifs et qui sont animés de charisme, de courage, d'autorité, et qui peuvent amener les groupes à éduquer en fait les peuples, là nous sommes dans les esprits, les peuples, les tribus, à comprendre, à avoir certaines notions de la culture de la paix, et ça c'est une éducation, donc c'est un processus, donc ça va prendre du temps, mais au moins il faut commencer.
Là encore c'est l'histoire d'un peuple qui doit intervenir. Il faut que d'abord la foule puisse d'abord comprendre son propre sa propre histoire, sinon ben, on va agir comme un animal.
Mais la foule, en fait, quand nous parlons de la foule ne peut pas dire « je comprends mon histoire », parce que quand les gens sont pris individuellement, dans les milieux éducatifs par exemple, parce que l'école également, on peut parler d'une foule dans le cas d'une école, on peut parler d'une foule dans le cas d'une église, pourquoi pas, on peut parler d'une foule. En fait, quand il y a dans des milieux éducatifs, on peut, même les ONG, les partis politiques peuvent également devenir des milieux éducatifs, peuvent éduquer les masses à des actions de non-violence, même si ça va prendre du temps, parce que la foule pense que non, nous en avons marre, il faut immédiatement une solution, mais parfois, c'est que les gens les leaders emmènent en fait les peuples ou les foules à comprendre que oui, ça prendra du temps, mais il faut que nous puissions aller dans les négociations
méthodiquement,
systématiquement, pour que nous arrivions à atteindre des objectifs que nous poursuivons. Donc c'est possible en fait tout ça, mais il faut quand même dire que quand les gens se retrouvent, les masses, les foules, il y a cette psychologie de foule qui permet aux gens de ne pas réfléchir et de mener des actions.
Donc Madame Baïdil, on peut dire que la foule ou la masse est facilement influençable.
Bien sûr que la masse est influençable. Dans tous les groupes, il y a émergence de ce qu'on a appelé ici des leaders. Et ce sont souvent ceux qui initient des actions. Et ce genre-là, ce qu'on a des slogans, on peut les voir, ils ont des symboles. Et les gens se reconnaissent en fait dans ces slogans parce qu'ils y répondent et avec ces symboles. Et ce sont souvent ces leaders qui manipulent la masse par des discours de la haine, ça dépend des cas, ou des actions de violence. Le but étant souvent de diaboliser en fait l'autre camp, de montrer qu'on cherche toujours un bouc émissaire, qu'on voudrait rendre responsable des souffrances du groupe, des frustrations du groupe. Alors là, on manipule et on influence en fait la foule, les masses, pour justement essayer de diaboliser l'autre camp. Donc la foule est influençable.
Oui, dites-moi un peu, Madame Baïdila, lorsque certaines personnes ne veulent pas suivre la voie de la foule, elles sont mal vues et considérées comme des lâches, des traîtres par les autres membres de la masse. Mais comment peuvent-elles éviter ces réactions et rapprocher les vues des uns et des autres à son point de vue?
Ça, je voudrais vous ramener encore une fois dans les cas des groupes qui sont organisés. Parce que la foule non organisée, dans la psychologie des foules, c'est difficile que les gens disent « moi je prends un autre point de vue ». Mais quand le groupe est organisé, là c'est une action à mener avant les actions violentes. Donc on se dit dans le groupe, et là il faut absolument qu'il y ait une culture démocratique, parce que dans la masse, dans le groupe, il faut qu'il y ait un groupe en fait, il faut que les gens réfléchissent à leurs actions, aux actions à mener. C'est ça qui fera avancer les choses. Parce que quand il n'y a pas réflexion dans les groupes, ça va emmener à des actions de violence, donc on ne gagnera pas la cause qu'on est en train de défendre. Donc il faut quelque part que ces gens-là prennent le courage, encore une fois, de crier dans le grand groupe d'autres des sous-groupes pour essayer de jouer, encore une fois, la manipulation n'est pas toujours mauvaise, de manipuler en fait les uns des autres pour essayer de voir que ce que nous voulons préconiser comme action n'est pas bonne, voilà ce que nous pensons, et c'est encore une fois une négociation, des dialogues au sein des groupes, mais là vraiment il s'agit des groupes organisés.
Je rappelle à nos auditeurs que nous avons dans ce studio Espérance Baïdila, professeur Ali Passé qui est docteur en communication pour parler du comportement désorganisé de la foule qui engendre des violences. Restez avec nous dans ce studio, madame. Le temps de suivre la conclusion.
Lorsqu'un village, un quartier, une région, un pays traverse une période de guerre, d'insécurité, d'instabilité économique, de bouleversements politiques, nous nous sentons profondément affectés. Nous vivons de manière indigne, nous nous sentons frustrés, angoissés et nous cherchons les moyens d'améliorer rapidement notre situation. Nous sommes tellement désespérés que notre situation fait que nous réfléchissons moins et nous sommes attirés par des solutions simples qui nous sont présentées par les leaders des groupes. Cependant, le niveau global d'intelligence d'une foule est inférieur à celui d'un seul de ses membres. Par exemple, une foule prend plus de risques et a des positions plus extrêmes que des individus seuls. Guidés uniquement par nos désirs et instincts primaires, nous sommes donc vulnérables et prêts à exécuter aveuglément les ordres du chef pourvu que notre situation s'améliore. Rassemblés en foule, nous avons tous un objectif commun et nos réactions ne sont plus alors guidées par des réflexions mûres face aux événements. Des actions de foule comme à Kinshasa en 1991 peuvent nous mettre en danger. La foule peut donc être dangereuse si on prend part à des actions de manière irréfléchie. Lorsqu'un leader lance un message appelant les membres des groupes au rassemblement populaire, nous devons individuellement nous poser des questions suivantes. Pourquoi le leader nous appelle au rassemblement? Quels problèmes essayons-nous de résoudre? Quelles sont nos revendications? Quels sont nos moyens d'action? Quels sont les dangers pour moi-même et pour les autres concitoyens? Si toutes les réponses à ces questions sont négatives ou exclusives, alors abstenons-nous de participer à ces mouvements de foule et tentons de convaincre nos proches de ne pas y participer non plus. Car si nous acceptons de répondre à un ordre mal donné, nous devons être aussi prêts à assumer nos responsabilités pour les conséquences qui peuvent découler de nos actes, à savoir le traumatisme, la culpabilité et une situation qui continuera à s'aggraver pour nous et pour tous nos frères et sœurs. Alors, toi qui nous écoutes, garde bien à l'esprit que celui qui t'empêche de te battre, donne-lui une récompense.
Okapi, actif pour la paix.
Celui qui t'écoute, qui t'empêche de te battre, donne-lui une récompense. Ça fait partie de la conclusion de Bénévolence. Nous poursuivons cet entretien avec vous, Madame Espérance Aydila. Dites-moi un peu comment les membres d'une foule peuvent-ils procéder pacifiquement pour revendiquer une solution à leurs problèmes?
Ça, c'est encore une fois un processus et ça doit découler d'une éducation, une longue éducation de la culture de la paix. Le groupe est toujours organisé dans ce cas précis, parce que quand on veut revendiquer, c'est-à-dire que quelque part on a eu à parler ensemble. Je prends l'exemple des professeurs d'université, parce que la non-violence, c'est également exactement dans les mouvements de grève. Ça, ce sont des actions non-violentes qui s'organisent, en fait, qui disent nous menons des actions non-violentes pour revendiquer une cause qui est commune et une cause qui est juste. Ça, c'est très bien, mais, j'insiste là-dessus, il faut que l'autre camp, en fait, le pouvoir en place puisse absolument intégrer les revendications des groupes dans les actions de tous les jours. Sinon, ça n'a pas de sens et c'est ça qui mène en fait la violence. Il faut que les gens, quand les gens ne sont pas écoutés, quand les gens continuent à être frustrés, c'est là en fait qui pousse les gens à dire on fait un peu plus parce qu'on en a marre. Voilà, on va casser, on va faire ceci. Donc, il faut que l'autre camp soit également disposé à écouter et ça, c'est une culture. Ça doit s'apprendre et ça prendra du temps, mais il faut que nous puissions commencer à mettre en place cette culture de la paix dans la tête des uns et des autres.
Merci beaucoup, Madame Espérance Baïdila. Je rappelle que vous êtes professeur à l'IFASIC et docteur en communication. On peut dire que quand les gens ne sont pas écoutés, cela peut pousser à la violence.
Absolument.
C'était la conclusion pour cette chronique bénévolence à deux sujets. Aujourd'hui, nous avons parlé du comportement désorganisé de la foule qui engendre des violences. C'est aussi la fin de cette émission. Capitaine de ce jeudi.